Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Des manifestants, enseignants, élus, anonymes, défendant la liberté d'expression, disant non à l'obscurantisme. Ils étaient hier des milliers dans plusieurs villes de France à rendre hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie assassiné vendredi pour avoir montré des caricatures de Mahomet dans sa classe. Parole d'enseignant dans un instant et réponse de l'exécutif qui tenait hier soir un conseil de défense à l'Élysée. Dans ce journal, nous irons aussi dans le Haut-Karabakh où les combats continuent entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Rencontre sur place avec des franco-arméniens venus prêter main forte à leur pays. Et puis direction l'Inde où des écoles en plein air voient le jour malgré le Covid-19. C'est en fait la seule solution pour suivre l'éducation des enfants les plus pauvres dans le pays. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont réunies hier partout en France pour rendre hommage à Samuel Paty, professeur assassiné vendredi après avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves. À Paris, place de la République, était notamment présent le Premier ministre Jean Castex, de nombreux représentants politiques, des représentants syndicaux ou associatifs également. Un rassemblement surtout porté par des anonymes, dont de nombreux enseignants inquiet. Valentin Dunat a rencontré l'un d'eux.
Vous brandissez la dernière une, l'une des dernières unes de Charlie Hebdo.
Je disais toutes, je suis abonnée. Tout ça pour ça, oui. Tout ça parce que c'est dur d'être aimé par des cons et des connes. Et qu'il ne faut plus jamais qu'on égorge qui que ce soit. Moi, je suis grande gueule, assez libertaire dans l'esprit. Et j'ai failli aussi peut-être être égorgée à la place de Samuel Paty. Il faut contrer par le questionnement, pas par les affirmations. Parce que notre jeunesse, elle est en péril avec les réseaux asociaux. Je suis très émue parce que voilà, j'aurais pu aussi être à sa place et que tous les collègues, tous mes élèves, mes proches, ma famille, mes enfants qui sont enseignants aussi, ils auraient pu y passer aussi.
Une colère enseignante mêlée à l'inquiétude hier dans les cortèges. Colère à laquelle Emmanuel Macron a tenté de répondre hier soir lors d'un conseil de défense. Les préfets, a-t-il dit, ont 15 jours pour préparer la rentrée du 2 novembre après la Toussaint et pour assurer la sécurité des établissements scolaires, en particulier dans les zones considérées comme sensibles. Le chef de l'État a également demandé à ses ministres des actions rapides et concrètes, principalement sur Internet, Simon Le Baron.
Frapper vite et fort sur les réseaux sociaux, détecter plus efficacement les appels à la violence pour mieux riposter. C'est la volonté d'Emmanuel Macron, alors qu'une vidéo postée la semaine dernière est au cœur de l'enquête. Le père d'une élève s'en prenait au professeur qui avait montré des caricatures de Mahomet en classe et dévoilait son identité. Le gouvernement veut donc renforcer ses actions de veille sur les réseaux et il prépare son contre-discours à destination des Français, mais aussi des pays arabes, où les annonces du président sur le séparatisme ont été déformées et interprété selon l'Élysée comme une croisade anti-musulmans. Sur le terrain, l'exécutif va lancer des actions policières et judiciaires contre ceux qui se sont réjouis de l'attentat. 80 messages de soutien ont été identifiés, mais aussi contre les individus et les associations soupçonnés d'avoir créé un contexte favorable au passage à l'acte. Des actions seront menées dès les prochains jours. Ça, c'est pour la réponse immédiate. Et puis, à plus long terme, Emmanuel Macron demande à ses ministres de l'Intérieur, de la Justice et de l'Éducation de compléter, d'enrichir son projet de loi contre le séparatisme islamiste. Le texte doit être présenté le 9 décembre au Conseil des ministres.
Simon Le Baron, et j'ajoute que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande déjà au préfet d'expulser 231 personnes fichées S en France pour radicalisation à caractère terroriste, des étrangers en situation irrégulière à chaque fois. Le cessez-le-feu aura duré à peine quelques heures entre Arméniens et Azerbaïdjanais dans le Haut-Karabakh. Le conflit entre finalement dans sa quatrième semaine ce matin, sans véritablement de répit. Les victimes se comptent désormais par centaines dans les deux camps. Notre envoyé spécial est toujours sur place, Claude Brouillot, qui a rencontré au milieu des soldats de métier et des volontaires aguerris de jeunes franco-arméniens qui ont tout quitté pour essayer de leur venir en aide. Voici son reportage.
Sipan Mouradian contrôle les véhicules civils qui montent entre les camions militaires dans le corridor de Latchin, axe routier vital entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. Il y a deux semaines, ce jeune franco-arménien de la communauté d'Alfortville dans le Val-de-Marne, formé au Conservatoire National d'Art Dramatique, était encore sur les planches quand il a décidé de tout quitter pour, dit-il, aider son peuple.
Moi, je sais pas me battre. Je suis venu en sachant que j'irai pas jusqu'au front parce que je sais pas tenir une arme et je sais pas tuer.
Aujourd'hui, je suis là et je me rends compte que je suis vraiment pas loin du front. Peut-être que je ferai du café pour les gens qui se battent au front. C'est une guerre qui n'a pas de nom parce qu'ils se battent, j'ai l'impression, contre des fantômes qui sont au-dessus de leur tête et il y a une pression monstre. On entend tous les soirs des drones, on voit des missiles qui sont tirés pour se défendre. Mais c'est une technologie très avancée par rapport à l'Arménie. C'est inhumain ce qui se passe. C'est la continuité du génocide arménien. Moi, j'ai juste envie de dire ça.
À proximité du point de passage entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, ils sont comme Sipiane Mouradian, une demi-douzaine de jeunes arméniens francophones. D'autres viennent des États-Unis ou même de Jérusalem. Pour lutter contre le froid la nuit, ils dorment à plusieurs dans des voitures ou des tentes au bord de la route qui mène au col. Ils n'ont pas d'armes, mais ils disent qu'en défendant le Haut-Karabakh arménien, ils ont trouvé un sens à leur vie.
Claude Bruyot dans le corridor de Latchine pour France Culture. L'Arabie Saoudite a ouvert hier aux fidèles la Mecque, le site le plus sacré de l'islam, une première en 7 mois, grâce à une baisse du nombre de contaminations au Covid-19 dans le pays. Même assouplissement en Israël, où après 1 mois de restrictions, crèches, écoles maternelles, parcs nationaux, plages et entreprises n'accueillant pas de public ont rouvert. Ces quelques améliorations locales ne renversent toutefois pas la tendance mondiale. Les indicateurs sont toujours au rouge, avec près de 40 millions de contaminations dans le monde. Ce matin, d'ailleurs, nous partons en Inde, où l'épidémie est loin d'être contrôlée. Les écoles restent toujours fermées, avec des cours sur Internet pour les enfants les plus riches. Et pour les autres, des particuliers ont ouvert des écoles à ciel ouvert, dans la banlieue de New Delhi notamment. Sébastien Fersi s'y est rendu.
Un tableau noir, quelques chaises, la classe se déroule en plein air, au bord d'un chantier de construction du métro aérien. Au-dessus, les énormes ponts en béton déjà construits offrent un abri à la vingtaine d'écoliers de ce quartier pauvre de Mayur Vihar, en banlieue est de New Delhi. Priti, 15 ans, finit un cours de maths. Comme tous, elle allait avant à l'école publique.
Notre école organise un cours quotidien en ligne de 40 minutes. Mon frère me prête son téléphone portable, mais nous n'avons pas d'électricité pour le recharger et la connexion Internet est mauvaise. Au moins ici, on peut apprendre et poser des questions.
Dans ce terrain vague ensablé, 3 autres écoles improvisées ont ainsi vu le jour ces derniers mois pour aider ces enfants. Celle-ci est tenue par 2 bénévoles, dont Rajat Patra, un ingénieur de 33 ans.
Ces classes régulières sont importantes car sinon ces enfants ne comprendront pas bien les cours. Ils vont perdre toute motivation et arrêter l'école. Et comme leurs parents sont des agriculteurs non éduqués, ils vont les inciter à travailler avec eux.
Le gouvernement de New Delhi reconnaît que 15% des élèves des écoles publiques sont déjà introuvables. Cela représente 225 000 enfants, rien que dans la capitale.
C'était Sébastien Farcy à New Delhi pour France Culture. En Europe, la deuxième vague de Covid-19 est bel et bien là, amenant des pays à prendre un à un de nouvelles restrictions. Couvre-feu nocturne en Belgique, par exemple, à partir d'aujourd'hui, de minuit à 5 heures du matin. L'Europe enregistre au total 250 000 morts du Covid-19 depuis le printemps. En France, il y a eu plus de 33 400 morts, dont 85 hier. Le nombre de malades en réanimation continue par ailleurs de progresser, dépassant les 1900 ce matin dans les hôpitaux. Un virus et des mesures qui, on l'a dit, mettent en grande difficulté financière certaines entreprises, restaurants, cinémas, théâtres et leurs salariés, pour ne citer que. La semaine dernière, après un cafouillage politique, le gouvernement a confirmé une aide de 150 euros pour les jeunes qui bénéficient des aides au logement, ainsi que pour tous les étudiants boursiers. Les moins de 25 ans sont en effet particulièrement touchés par la crise économique en ce moment et les associations, les syndicats aimeraient que le gouvernement aille plus loin en leur faveur. Ils demandent l'ouverture du RSA pour toute cette tranche d'âge, comme nous l'explique Tom Chevalier. Il est chercheur au CNRS, spécialiste des politiques en faveur des jeunes.
C'est une nécessité aujourd'hui pour 2 raisons en fait. Une première raison qui est que le RSA, c'est le premier dispositif de lutte contre la pauvreté. Or, les jeunes correspondent à la catégorie de la population, à la tranche d'âge la plus touchée par la pauvreté. Ils ont un taux de pauvreté près de 2 fois supérieur à la population générale. Ils sont 4 fois plus pauvres que les plus de 60 ans, les plus de 65. Donc, c'est vraiment la première catégorie de la population qui est touchée par la pauvreté, alors que dans le même temps, c'est la seule, du coup, catégorie de la population qui ne peut pas avoir accès au principal dispositif de lutte contre la pauvreté, donc au RSA, en raison de cette limite d'âge à 25 ans. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est le décalage qu'on peut trouver entre les limites d'âge qu'on a en France. Donc on a des limites d'âge, en gros, pour accéder à l'âge adulte, souvent autour de 18 ans. Par exemple, pour la majorité civile, 18 ans. majorité politique, le droit de vote, 18 ans. Et en fait, on a cette exception de l'accès à la citoyenneté sociale avec cet âge à 25 ans. C'est deux paradoxes en fait qui justifieraient l'ouverture du RSA au moins de 25 ans.
Des propos recueillis par Catherine Pétillon. La météo de ce lundi, un temps lumineux et sec avec 6 degrés à Lille ce matin, 7 à Paris, 13 à Nice.